Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 16 janvier 2020. Voilà, c'est fait. Que dire de plus si ce n'est c'est fait. Après 22 mois de bagarres par tweet interposé, de négociations à Washington et en Chine, après nous avoir soufflé le chaud et le froid, histoire de voir qui avait la plus grosse économie, bien sûr, les Américains et les Chinois ont signé leur trade deal et le marché n'a strictement rien fait. Bon, c'est pas 100% exact, le marché a tout de même terminé à des niveaux records, mais il fallait une loupe pour le voir. Le seul qui finalement fait parler de lui, c'est le Dow Jones qui termine au-dessus des 29 000 points pour la première fois. Et la moitié de Wall Street est excitée comme un troupeau d'ados à un concert de Justin Bieber parce que l'indice américain n'a mis que 40 jours pour passer de 28 000 à 29 000 et que c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire, sauf que 1 000 points quand tu vaux près de 30 000, c'est quand même moins impressionnant que quand tu passes de 10 000 à 11 000. Mais visiblement, les Américains ont quand même de la peine à percevoir la notion de pourcentage et de proportion tant ils sont obnubilés par la vitesse à laquelle on monte. Donc, pour résumer, le deal qui a été signé hier aura tout de même reçu un accueil plutôt froid. Ce qui est tout de même assez dingue parce que depuis près de 2 ans, on ne parle que de ça et Trump. Et le jour où c'est signé, les commentaires, c'est « Ouais, c'est pas mal, mais il y a encore du boulot et rien n'est fait. » On dira que le marché a perçu la nouvelle, qui, il faut le dire, n'était pas non plus une surprise, de manière prudemment optimiste. Quand on regarde un peu dans les détails du traité, on a quand même un tout petit peu l'impression que Trump leur a dansé sur le ventre aux Chinois. Parce que sans vouloir en faire une polémique, ça ressemble plus à une sanction contre la Chine. Un peu comme un jugement de divorce. C'est pas tant de savoir qui gagne, c'est surtout de savoir ce qu'il reste à celui qui perd. Globalement, les Chinois s'engagent à acheter près de 200 milliards de biens américains. Ça va en faire des bateaux qui vont partir en Chine, c'est tout bon pour le climat, Greta va adorer, et ça lui donnera quelqu'un pour crier dessus à la place de Roger Federer qui, on le sait, est tout de même responsable de 97% du réchauffement climatique à lui tout seul parce qu'il est sponsorisé par le Crédit Suisse, NetJets et Mercedes. Par contre, les bateaux qui vont ramener les biens américains en Chine, eux, ils vont y aller à la voile et tout va bien se passer. Mais je m'égare. Donc les Chinois vont acheter 200 milliards d'iPhone, ils vont ouvrir l'actionnariat de leur société aux étrangers. De manière plus simple en tous les cas, la Chine a également accepté d'améliorer la protection de la propriété intellectuelle, d'ouvrir son secteur services financiers. Ils vont renforcer les protections contre le vol de secrets commerciaux et les sanctions pour ceux qui le feront. Et pour terminer, il sera plus simple pour une société US d'aller faire du business en Chine et elles ne devront plus ouvrir leur technologie aux Chinois. De leur côté, les Américains s'engagent à baisser de 50% les droits de douane sur 120 milliards de biens chinois, soit 7,5% au lieu de 15%, et ils s'engagent aussi à conserver les droits de douane sur les 360 milliards qui restent. Par contre, comme ils sont magnanimes, ils ont promis de ne plus annoncer de nouveaux tarifs. En ce qui me concerne, j'ai toujours bêtement, peut-être, penser que les négociations avaient pour but de trouver un deal qui avantage les deux parties. Mais là, tout de suite, c'est plutôt on jette en l'air tous les bénéfices de l'accord et tout ce qui retombe au sol, c'est pour les États-Unis. Mais comme on est fer, tout ce qui reste en l'air, ça va pour la Chine. Quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, on peut en tous les cas pas dire que c'est les Chinois qui ont remporté une victoire avec ce deal. En tous les cas, à l'annonce de la signature et les détails de l'accord, l'enthousiasme de la communauté financière a été relativement contenue et on a assez envie de dire tout ça pour ça. Les indices n'ont donc rien fait, les experts se sont montrés prudents, circonspects, vigilants, attentifs et méfiants. Il faut dire que maintenant on va pouvoir se chauffer pour la suite du trade deal puisque je le rappelle, dorénavant il reste 2 phases et que Trump va probablement faire durer le plaisir jusqu'aux élections puisqu'il n'a pas intérêt à que le soufflet se dégonfle d'ici là. En conclusion, le trade deal est signé, mais maintenant on attaque la saison 2 et pas que sur Netflix. On est donc reparti pour un tour de manège. Ce matin, on ne peut pas dire que ce soit la fête en Asie. Le Japon, Hong Kong et la Chine ne font rien, mais rien du tout. C'est aussi calme qu'un stade de foot en Suisse. On a l'impression que tout le monde savait et que maintenant, on attend la suite. L'or est à 1558 et le pétrole est remonté à cause du trade deal et des inventaires qui étaient encourageants. Bon, il a remonté de 20 cents. Alors autant vous dire qu'on est même quand même vachement loin de l'euphorie ou alors d'une bonne attaque de drone sur une ville du Moyen-Orient. Dans les nouvelles du jour, si vous retirez la signature du trade deal, il ne vous reste pas grand-chose pour allumer le feu avec le Financial Times. En tous les cas, on retiendra que la presse estime que c'est une pause dans la trade war qui a été signée et rien de plus. Pour le reste, on peut tout de même noter que Goldman Sachs a foiré son trimestre pour la seconde fois consécutive. Le titre terminait en baisse de 0,18%. On sent bien que la déception est immense. Ailleurs, Vladimir Poutine restructure le gouvernement pour préparer le jour où il sera plus président, histoire qu'il ne perde pas non plus le pouvoir et que l'on puisse pas dire que la démocratie ne fonctionne pas là-bas. Et puis, Toyota investit 400 millions dans les taxis volants. Apple achète une société qui fait de l'intelligence artificielle pour 200 millions. Ray Dalio et Bridgewater voient l'or aller à 2 000 $. Et la demande n'a jamais été aussi énorme pour une émission du 30 ans italien. Il y a donc une montagne de gens qui veulent prêter de l'argent à l'Italie pour les 30 prochaines années, moyennant un coupon de 2,5%. C'est quand même courageux, sachant que d'ici 30 ans, l'Italie aura changé environ 45 fois de gouvernement. Si l'on fouille un peu dans la presse financière de Boulevard, ce matin, nous devrions aussi trouver une demi-douzaine d'articles qui disent qu'on n'ira pas plus haut, que la fin est proche et qu'à côté de ce que l'on vit aujourd'hui, la bulle Internet, c'était les vacances. Et pour terminer, on parle aussi beaucoup de la destitution de Trump. Le procès commence la semaine prochaine, mais étonnamment, tout le monde s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ce qui pourrait se passer si Trump se faisait virer, il y aurait aussi de quoi se rouler par terre de rire en voyant les candidats démocrates qui se haïssent tous cordialement et qui ont une moyenne d'âge de 114 ans. Il y a de quoi s'inquiéter si les USA n'ont rien de mieux à proposer que Warren et Sanders. Et si Trump se fait virer, on va presque le regretter. Pour les chiffres du jour, il y aura le CPI en Allemagne, les minutes du dernier meeting de la BCE et Lagarde qui parlera. Aux USA, ce sera Jobless Claims, Philly Fed, Retail Sales et Business Inventories. Et pour le moment, les futurs sont en hausse de 0,15% pour fêter le trade deal. Et côté chiffres du trimestre, nous attendrons impatiemment Morgan Stanley. Je ne sais pas comment on souhaite une excellente journée et un très bon café en chinois, mais le cœur y est. Moi, je vous retrouve demain à la même heure et au même endroit.